Le journal de Radio 1 et Thiers FM, on va commencer par cette question. Les athlètes de Tahiti 2027 courront-ils à Hitiya ou à Pater? Et on parlera de croisière et de culture avec trois concerts. Le journal, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous. On commence
par du sport et par ce débat dans le milieu de l'athlétisme, Lucie.
Oui, des débats plutôt tendus entre la Fédération polynésienne et le COPF. La première reproche au second le choix du stade d'Hitiya pour accueillir les épreuves d'athlétisme des Jeux du Pacifique. Un choix inscrit dès 2020 dans le dossier de candidature de Tahiti 2027 qui prévoit des grands travaux et mise aux normes internationales du petit stade de la côte Est qui a aujourd'hui des pistes en gazon et peu d'infrastructures. La Fédération polynésienne d'athlétisme n'a jamais été convaincue par cette idée et demande, elle, à ce que les épreuves de course, de saut et autres lancés se tiennent au cœur de Papeete, au stade Pater. Entre autres arguments, replacer l'athlète au cœur des Jeux, attirer le public, éviter les longs trajets aux 600 athlètes et officiels. Mais pour Daniel Vicente, le plus important, c'est l'héritage de ces Jeux.
C'est pas une fronde contre le COPF, pas du tout. En tant que technicien de l'athlétisme, on veut faire prendre conscience des difficultés qui vont arriver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un héritage et qu'il y ait un maximum de jeunes qui viennent sur ce stade et qui puissent servir également aux scolaires. À Hitiya, il n'y a qu'un collège. Et après, même Tarabao, on a discuté avec les dirigeants de Tarabao, et ils n'iront pas à Hitiya le soir pour s'entraîner. Enfin, je pense sincèrement que ça coûte moins cher si on rénovait Pater, vraiment moins cher que d'aller créer un stade qui va coûter la peau des fesses, excusez-moi du terme, et qui servira strictement à rien.
Daniel Vicente, vice-président de la Fédération polynésienne d'athlétisme, qui parle donc de rénover Pater. Le stade de Pirée doit déjà faire l'objet d'un important rafraîchissement pour accueillir les cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi qu'une partie de la compétition de football des Jeux. Mais sa piste d'athlétisme pose problème. 6 couloirs, c'est 2 de moins de ce qu'exigent les règles internationales. Impossible d'en tracer 2 de plus tout autour du terrain. Il faudrait pour ça détruire une partie des tribunes populaires. La Fédération d'athlétisme a donc demandé une dérogation pour faire la compétition avec 8 couloirs dans la ligne droite et 7 sur le reste de la piste. Une perte de temps pour Louis Provost, le président du COPF.
Ce genre de stade ne rentre dans aucune des cases reconnues par la Fédération internationale. Donc on a eu des réponses de la Fédération océanienne qui a dit non, c'est 8 pistes, point final. La présidente n'est pas contente. Donc elle a dit, je vais m'adresser à World Athletics. On attend la réponse. Mais à un moment donné, il faudra revenir à la raison qu'il y a des règles à appliquer. Et c'est ce qu'expliquait Vidia tout à l'heure. Si le stade ne correspond pas à la norme, les records risquent de ne pas être homologués. Et les gars risquent de ne pas être qualifiés aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'on va mettre en balance une qualification aux Jeux Olympiques?
Voilà Louis Provost qui cite, vous l'avez entendu, Vidia Lacan, le président du Pacific Games Council, qui était en visite au Fénois la semaine dernière. Le responsable a interpellé avant son départ sur l'importance du respect des normes. Il a surtout rappelé que toutes les infrastructures devaient être livrées en 2026. Le chronomètre est lancé, donc pourquoi ne pas avoir tenu ce débat avant? Cécile Gilroy, la présidente de la FEDE, renvoie la question au comité olympique.
On n'a pas été associés aux différentes visites du PGC, nous l'athlétisme. Nous, on a respecté la procédure, les hiérarchies, on a interpellé l'IGSPF, on a interpellé le COPF. Et en fait, les seuls retours qu'on avait, c'était que le PGC exigeait les 8 couloirs. Et finalement, avec la réunion de jeudi après-midi, le PGC nous dit clairement qu'ils ne sont pas les décideurs. En fait, si dès le départ, on avait pu être associés à cette réunion où ils ont visité le stade Pater, on aurait déjà tenu ce débat et on aurait déjà pu faire les démarches officiellement auprès de World Athletics.
Des propos recueillis par Charlie René.
On va rester dans le sport, Lucie, avec cette conférence sur l'évolution des Jeux Olympiques.
Que reste-t-il des premières Olympiades? Gerbert Buissou, maître de conférence en histoire ancienne et auteur d'une thèse sur l'Antiquité grecque, où sont nés les Jeux, animait une conférence mardi soir sur l'histoire des Jeux à l'université. En posant une question, que reste-t-il des premières Olympiades? Eh bien, peu de choses, selon le conférencier.
Ce qui ressemble à l'Antiquité est en fait une réinvention. C'est-à-dire que le lien avec Olympie tel qu'il existe aujourd'hui, avec à l'image de la flamme olympique, etc., c'est en fait un bricolage, et en plus un bricolage de 1936 qui est lié à la manipulation nazie des Jeux. Donc c'est quand même assez paradoxal que cette épreuve d'allumage de la flamme olympique que l'on croit parfois ancestrale, et qui est en réalité inventée en 1936 avec une vague connotation antique, eh bien ce soit cette épreuve qui rattache les Jeux modernes au concours olympique de l'Antiquité.
L'objectif des concours sportifs de l'Antiquité, rendre hommage aux dieux. Il n'était donc pas question à l'époque, comme cela peut se faire aujourd'hui, de se disputer les lieux de leur organisation. À Olympie, les hommes offraient leurs performances, leurs exploits et victoires à Zeus. Pas grand-chose à voir donc avec les jeux contemporains, mais il y avait déjà la professionnalisation des sportifs, qui a démarré dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, ou la critique d'une pratique trop intense.
Dans l'Antiquité, les champions sont absolument adulés. Donc les athlètes bénéficient des honneurs à Olympie, des honneurs dans leur cité d'origine. Ils sont couronnés, ils disposent aussi de récompenses matérielles. Certains deviennent des professionnels du sport. Ce sont des athlètes qui sont de véritables vedettes. Par contre, dès l'Antiquité, il y a déjà un discours de dénigrement du sport, en tout cas chez certains savants. Il y a une critique très vive de la pratique trop intensive du sport, qui est vue comme une fabrique d'imbéciles, au détriment de l'idéal grec du philosophe.
Rappelons également que ce n'est qu'en 1936 que les femmes ont enfin pu concourir officiellement sur certaines épreuves, une année marquée aussi par l'utilisation de cette compétition pour servir le discours raciste d'Adolf Hitler, chef du parti nazi.
Et enfin, toujours concernant les JO, une énorme bourde relevée par Tahiti Info.
Oui, un perroquet posé sur un cocotier ou encore une étoile de mer qui surfe, des détails qui ont eu le don d'agacer beaucoup de monde. Repérées par Tahiti Info, les caractéristiques de la pièce consacrée à Tahiti et frappée par la monnaie de Paris à l'occasion des Jeux Olympiques ne collent pas vraiment aux Fénois. Elle devait pourtant mettre à l'honneur le territoire, c'est donc malheureusement raté.
On va parler tourisme maintenant, Lucie, avec la croisière qui est au beau fixe.
Les gros navires se succèdent ces derniers jours à Tahiti, Moorea et Raiatea. Cette semaine, Moorea recevra 16 519 visiteurs en 7 jours et Tahiti plus de 13 000 personnes. Selon Bud Gilroy, président du Tahiti Cruise Club, l'affluence s'explique par la saisonnalité des navires transpacifiques, c'est-à-dire ceux qui traversent le Pacifique.
La saisonnalité s'explique parce que les bateaux se repositionnent pour aller en Alaska. Donc en avril, on a les bateaux qui viennent d'Australie, Nouvelle-Zélande, Tahiti, les quelques îles qui remontent vers Honolulu. Et on va voir ce même balai des grands bateaux qui va repasser en septembre-octobre, qui redescendent à ce moment-là de l'Alaska en Australie.
En 2024, 30 compagnies de croisière assureront les voyages de 46 bateaux dans nos eaux. Le Tahiti Cruise Club annonce plus de 1000 escales et la même chose pour 2025. De retour du grand salon des professionnels de la croisière à Miami, les professionnels se réjouissent. La croisière est au beau fixe, disent-ils. À l'international, les compagnies font construire de nouveaux bateaux. Ceux qui sont commercialisés affichent des taux d'occupation de 60 à 80%. Et en Polynésie, la croisière assure 25% des revenus du secteur du tourisme. Interrogé par Delphine Barret, Bull Gilroy détaille les projets du Tahiti Cruise Club.
Alors sur les projets, on est déjà en train de travailler sur le deuxième semestre 2026 et sur 2027. Notre but, c'est de continuer à lisser la saisonnalité, que ça continue à venir, et également d'augmenter les têtes de ligne. Les têtes de ligne, je rappelle, c'est des gens qui embarquent et débarquent en Polynésie. Ça fait que nos clients arrivent par avion, restent à l'hôtel, consomment. Donc c'est toute l'économie qui tourne. Et derrière ça également, c'est de travailler sur des nouveaux projets communautaires. On a beaucoup de travail également de communication à faire par rapport aux efforts qui sont faits par les compagnies croisées en termes environnementaux. On a du travail encore qui continue tout le temps.
Enfin, concernant le terminal de croisière à Papeete, le port autonome indique que le chantier n'est pas encore tout à fait terminé. Il reste, je cite, « quelques petites choses à faire et la conformité du bâtiment à obtenir ». La passerelle prévue un temps pour faciliter la traversée du front de mer par les piétons ne fait plus partie du projet pour l'instant.
Des chantiers routiers à l'appel à Tahiti.
Le ministère des Grands Travaux a fait le point sur les différentes réfections de routes en cours. Elles viennent de se terminer à Paya. Elles démarrent pour un mois au PK 46 à Mataya, puis au PK 51 à Papeari. Des chantiers sont aussi lancés à Veirao, bientôt à Afahiti, puis Taotira, Toahotu, Hitia et Tiarei plus tard dans l'année. Au total, ce serait 900 millions de francs qui seraient investis en 2024, entre autres parce que les fortes pluies du début de l'année ont détérioré les infrastructures du pays. Et enfin, un chantier de 10 mois s'ouvre au PK 18 à Punaoya. Il s'agit de reconstruire le pont de Vaiaoa, cette petite rivière qui débouche sur la plage publique.
Pour terminer, de la culture avec ses 3 concerts sur 3 semaines.
Varua Ote Reo au Petit Théâtre ce vendredi, le concert des ensembles traditionnels et classiques samedi 4 mai. Et enfin, le concert du Grand Orchestre Symphonique Millésime Rock les 17 et 18 mai. Un programme chargé pour les 3 semaines à venir pour le Conservatoire Artistique de Polynésie française, mais rien d'inhabituel pour l'établissement qui base sa pédagogique sur l'apprentissage des arts de la scène, comme l'explique Frédéric Sibard, responsable de la communication du conservatoire.
Le but, c'est de permettre à tous nos élèves de faire l'expérience de la scène, de jouer devant un vrai public qui a payé sa place. C'est la découverte que la musique, ça se joue, ça se partage, et c'est surtout un public, c'est une émotion, c'est quelque chose de particulier, un petit peu comme quand le temps est suspendu. Le jeu d'ensemble, que ce soit les percussions traditionnelles jusqu'au petit ensemble à cordes, c'est quelque chose de très particulier. Les élèves doivent apprendre la règle de l'harmonie, mais doivent aussi comprendre que, en tant qu'artiste, il faut qu'ils aillent sur la scène.
Autre particularité de l'établissement, l'association des deux sections, traditionnelle et classique. Comme ce sera le cas lors du concert des ensembles avec 6 formations qui se partageront la scène, 3 formations classiques et 3 formations traditionnelles, un travail qui dure depuis plusieurs années.
On a d'un côté le traditionnel, de l'autre côté le classique et puis des ponts entre les deux. Le traditionnel s'est inspiré du cursus classique. Le classique s'inspire de la création permanente en matière d'art traditionnel parce que notre grand gala de la section des arts traditionnels arrive à Toata le 22 juin prochain. Il faut savoir que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons danser, tout ce que nous allons chanter a été écrit, composé par nos professeurs de manière totalement originale. Puis nos professeurs du classique plongent dans le répertoire polynésien. C'est ce que leur a demandé notre directeur Fabien Maradina et vice-versa.
Les billets sont en vente à la Maison de la Culture et au Conservatoire, bien sûr. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actualité, c'est à 16h avec le flash de la rédaction.
Merci beaucoup Lucie, on poursuit avec la météo sur Radio.